Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le Brexit toujours dans l'impasse. Les députés britanniques incapables de trouver un compromis hier à Londres sur des scénarios alternatifs au plan proposé par Theresa May. La première ministre propose, elle, de démissionner pour faire accepter son plan négocié avec Bruxelles.
Et dans ce journal, une grande page consacrée à l'environnement avec une carte de la pollution de l'air dans les écoles et les crèches d'Île-de-France et de l'agglomération marseillaise.
À la une encore, un mini remaniement avant les européennes et les municipales en raison des ambitions électorale de trois membres du gouvernement. Nathalie Loiseau pour les européennes, Mounir Majoubi et Benjamin Griveaux sont eux désormais rivaux pour la mairie de Paris.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, attaque de Rome, victime de rumeurs. Que nous enseigne l'histoire? On posera la question à Claire Soussaine, elle est professeure en histoire du Moyen-Âge à l'université du littoral Côte d'Opale à Boulogne-sur-Mer.
Elle abat sa dernière carte pour faire adopter son plan sur le Brexit et sortir de l'impasse au Parlement britannique. Theresa May propose de démissionner du 10 Downing Street si l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est finalement adopté à Westminster, peut-être demain ou dans les jours à venir. La première ministre britannique cède ainsi aux pressions de nombreux élus de son parti conservateur qui conditionnaient leur soutien à son départ. Pas sûr que cela suffise à convaincre les députés et notamment ses alliés du DUP, les unionistes nord-irlandais qui estime que l'accord de Theresa May est toxique, Louise Baudet.
On a d'abord dit qu'elle reprenait la main, que sa promesse rebattait les cartes, qu'elle avait peut-être une petite chance d'inverser la tendance. Et puis, patatras, en une déclaration lapidaire, le DUP, petit parti nord-irlandais, et sa poignée de députés ont tout mis par terre. C'est dire la fragilité de Theresa May, qui certes s'assure de nouveaux soutiens chez les conservateurs, notamment celui des Brexiteurs les plus radicaux, mais sans que cela suffise à réunir les 75 voix supplémentaires à trouver avant un nouveau vote. Retour à la case départ, sans que l'horizon du Brexit s'éclaircisse et seule consolation pour Theresa May, le spectacle d'une chambre des communes très éloignée du consensus recherché. Hier soir, les députés votaient les scénarios alternatifs à l'accord de sortie qu'elle a négocié. 8 options, 8 non et des échanges tendus. Consolation aussi de voir dans un récent sondage que moins du tiers des Britanniques la jugent dotée des qualités requises, mais qu'aucun de ses concurrents potentiels ne fait mieux qu'elle.
Et dans son éditorial, le Guardian déplore qu'une fois encore, les questions vitales sur l'avenir du Royaume-Uni se retrouvent submergées par les eaux troubles de la politique interne au Parti conservateur et d'ironiser sur le Parlement qui a finalement eu son mot à dire hier. Non, 8 fois non aux alternatives sur le Brexit. On y revient dans la revue de presse internationale de Camille Magnard, juste après le journal de 7h30. Direction les États-Unis à présent, où le groupe Monsanto subit une deuxième défaite judiciaire de taille, condamné à verser plus de 80 millions de dollars à un retraité atteint d'un cancer, une maladie qu'un tribunal de San Francisco attribue au Roundup, le désherbant vedette de Monsanto. Pour le jury, le géant de l'agrochimie est coupable de n'avoir rien fait pour prévenir des dangers possibles de son produit à base de glyphosate, Grégory Phillips.
Edwin Aderman a pendant 25 ans, dans sa propriété de Californie, utilisé de grandes quantités de ce désherbant. L'homme a aujourd'hui 70 ans et les médecins lui ont diagnostiqué un cancer du système lymphatique. En 2015, l'année d'après, il portait plainte contre Monsanto. Après un procès qui aura duré un mois, le jury populaire a estimé que le Roundup avait été un facteur significatif dans le déclenchement du cancer de ce retraité californien. Le tribunal a également estimé que Monsanto avait mis sur le marché un produit avec un défaut de conception et que l'industriel avait été négligent en ne prévenant pas les utilisateurs des risques de cancer. Le groupe Bayer, désormais propriétaire de Monsanto, va donc devoir verser un peu plus de 80 millions de dollars aux plaignants. L'été dernier, un jardinier californien en phase terminale s'était vu octroyer la somme de 289 millions, ensuite divisé par 4. Dans ces deux dossiers, Bayer fait appel, arguant que son produit n'est pas cancérigène. En attendant, aux États-Unis, les plaintes se multiplient et le Roundup fait l'objet d'un peu plus de 11 000 actions en justice.
Au chapitre environnemental encore, mais en France, une question inquiétante pour les enfants, leurs parents et les enseignants. Quel est le degré de pollution autour des écoles? Pour la première fois, deux associations environnementales, Respire et Greenpeace, ont réalisé des cartes scolaires de la pollution de l'air en Île-de-France et dans l'agglomération marseillaise. Plus de 12 000 établissements ont été passés au crible, rien qu'en région parisienne. Des résultats analysé par Anne-Laure Barral.
Et on trouve quand même 682 établissements franciliens avec un air extérieur de mauvaise qualité, au-dessus des normes fixées en France pour la pollution de l'air au dioxyde d'azote. C'est mieux pour les particules fines, mais l'association rappelle que les recommandations de l'OMS sont plus strictes que les nôtres et dont, pour elle, 85% des établissements ne sont pas dans les clous de l'Organisation mondiale de la santé. Là où la situation est la plus critique, c'est principalement dans l'hypercentre de Paris, sur la Petite Couronne aussi, là où la circulation est difficile, dans les rues en pente également, plutôt que près des grands axes. Si cette carte est instructive, elle peut être aussi trompeuse. Sa précision est à 12,50 m dans Paris et plutôt 50 m en banlieue, parce que pour la produire, Respire n'a pas collecté pendant 5 ans, école par école, des données, mais elle a superposé les adresses des établissements scolaires, publics et privés, de la crèche au lycée de la région, sur les carte de la qualité de l'air moyenne annuelle faite par Air Paris, une modélisation que l'organisme public n'avait jamais faite auparavant.
Et dans l'agglomération marseillaise, maintenant, Greenpeace estime que des milliers d'enfants sont en danger dans des écoles et des crèches situées dans des zones fortement polluées au dioxyde d'azote. La norme européenne est de 40 microgrammes de dioxyde d'azote par mètre cube d'air, une norme largement dépassée dans plusieurs quartiers du centre-ville de Marseille. Le reportage d'Isabelle Dor.
Que Marseille soit polluée, tout le monde le sait, mais ce qui étonne cet enseignant, c'est le taux de dioxyde d'azote enregistré dans son école.
Moi, mon école, elle est située dans l'ultra-centre de Marseille. Elle est quasiment au double du taux légal autorisé. Il y a une quatre voies qui passe sous l'école et tout le monde sait que cette avenue est effectivement très polluée. La pollution, elle se voit dans notre école.
À l'école maternelle de la Belle de Mai, le taux de dioxyde d'azote dépasse de 50% le seuil limite. Les parents ne sont pas étonnés.
C'est pollué surtout sur la montée, en fait. Ça fait forcer le moteur.
L'école est dans une montée.
Ouais, voilà, ouais. Ouais, puis avec le carrefour en bas, là.
Cinq rues qui se croisent.
Voilà, c'est énorme, ouais, la pollution. On voit, là, regardez, vous voyez, il y a de la fumée. Puis les enfants toussent beaucoup et tout.
Ça m'étonne guère, puisqu'ils sont très souvent malades quand on revient à Marseille suite aux vacances.
Ça provoque des maladies respiratoires, c'est inquiétant.
C'est grave pour les enfants dont le système respiratoire est en plein développement, mais les enseignants aussi ont de quoi s'inquiéter, souligne Béatrice Escande du syndicat FSU.
Cette carte va susciter beaucoup d'inquiétudes. Nos enseignants vont demander des comptes à leur employeur et demander à avoir une visite médicale de prévention.
Greenpeace appelle les élus à prendre des mesures pour réduire le trafic routier afin de pouvoir enfin respirer sans danger.
Alors que l'Assemblée nationale examine en commission ce matin les freins à la transition énergétique, une étude du groupe Edmond de Rothschild a établi hier un classement des bons et des mauvais élèves en la matière dans le monde. La Suisse, la Colombie et la Suède sont champions de la transition énergétique en termes de consommation d'énergie par personne, d'émissions de CO2, de consommation d'énergie fossile et d'efficience énergétique. La France se classe, elle, 7e, les États-Unis 48e, le Qatar en 60e et dernière position. Mais globalement, les résultats sont encore insuffisants pour préserver l'environnement, Laura Dulieu.
L'étude montre surtout que l'augmentation de la consommation d'énergie mondiale surpasse largement les progrès en matière de décarbonisation, alors que le plus simple serait justement de réduire cette consommation d'énergie. L'Union européenne est la seule zone à l'avoir fait en 2017. Mais pas de quoi crier victoire, loin de là. L'Agence internationale de l'énergie prévoit une hausse de 25% du besoin énergétique d'ici à 2040. Et dans son rapport annuel pour 2018, publié lundi, elle pointe une nouvelle hausse des émissions de CO2 avec un volume historiquement haut, à cause notamment des énergies fossiles qui représentent toujours 80% de la consommation. Celle du gaz augmente, celle du charbon également. Or, pour réduire les émissions de CO2, une seule solution, diminuer largement et prioritairement les centrales à charbon. Mais ça ne se fera pas sans les grandes puissances. Si une fois encore, l'Union européenne est plutôt bon élève avec une légère baisse de ses émissions, les États-Unis, à l'inverse, augmentent sans complexe leur consommation de pétrole et donc leurs émissions de CO2.
Eux polluent les océans. Les produits en plastique à usage unique, coton-tige, paille, touillette à café, seront interdits dans l'Union européenne à partir de 2021. Le Parlement l'a entériné hier à Strasbourg à une large majorité. Le texte renforce également le principe du pollueur-payeur, en particulier pour l'industrie du tabac qui devra couvrir à partir de 2023 les coûts de collecte et de recyclage des filtres à cigarettes. C'est le deuxième produit en plastique à usage unique, le plus jeté dans l'UE. Une plaie pour l'environnement, un mégot jeté à l'océan pollue entre 500 et 1000 litres d'eau.
7h09 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Comment financer les nouveaux besoins en France en matière de dépendance?
C'est l'épineuse question à laquelle tentera de répondre Dominique Libault, l'ancien directeur de la Sécurité sociale, remet ce matin un rapport à la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Alors que les 85 ans et plus vont voir leur nombre exploser, près de 5 millions de personnes en 2050. C'est trois fois plus qu'aujourd'hui. On y revient dans le journal de 7h30. Ce ne sont donc plus 7, mais 10 ministres qui auront quitté prématurément le gouvernement en ce début de quinquennat Macron, du jamais vu. Le président et Édouard Philippe vont donc devoir procéder à un mini remaniement après la confirmation hier soir à l'Élysée du départ de la ministre Nathalie Loiseau en charge des affaires européennes, de Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, et de Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique. La première entre en campagne pour les européennes. Les deux autres se lancent dans la course pour les municipales de 2020 à Paris. Au ministère de l'Intérieur, Christophe Castaner refuse de baisser la garde. Auditionné hier par les députés de la Commission des lois de l'Assemblée nationale à propos des violences commises lors de manifestations des Gilets jaunes, Christophe Castaner s'est félicité du maintien de l'ordre assuré samedi dernier. Le début, selon lui, d'une meilleure gestion de la sécurité. Rosalie Lafarge.
Christophe Castaner veut y croire. Le grand ménage au sein de la préfecture de police de Paris et les mesures supplémentaires en matière de sécurité ont fait leurs preuves samedi dernier. Si le 16 mars a été marqué par de nombreuses violences et surtout de gros dégâts sur les Champs-Élysées à Paris, le 23, selon le ministre de l'Intérieur, l'ordre public a été maintenu.
Les bonnes consignes ont été bien appliquées et les résultats sont là. Ainsi, dans toute la France, nous avons compté 304 interpellations samedi dernier et 262 gardes à vue. Ce bilan montre que les décisions que nous avons prises vont sur la bonne voie.
Pour autant, à l'approche du 20e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, le ministre de l'Intérieur ne compte pas relâcher la pression, bien au contraire.
Il y a encore des individus qui se croient au-dessus du droit, au-dessus des lois et qui veulent encore semer le chaos. Pour l'ordre public, nous menons à la fois une course de vitesse pour arrêter immédiatement les débordements et un marathon pour sauver durablement les manifestations des émeutiers. Samedi dernier n'était donc que le début d'un travail long qui va demander beaucoup d'efforts, de mobilisation, de détermination. Nous devons rester extrêmement vigilants et ne surtout pas baisser la garde face aux individus violents.
Et pour cela, Christophe Castaner a déjà fait passer ses consignes au nouveau préfet de police de Paris. Il lui demande d'interdire, comme le week-end dernier, toute demande de manifestation sur les Champs-Élysées, puisque ça n'est, pour le ministre de l'Intérieur, qu'une provocation à de nouvelles violences.
L'humoriste Yacine Bellatar, visé par une enquête pour menace de mort déclenchée par le comédien Bruno Gassio, devait être déféré hier soir au tribunal de Paris en vue d'une mise en examen. L'animateur de Radio Nova, l'un des référents banlieue également d'Emmanuel Macron, est également accusé de harcèlement par plusieurs témoins, ce que Yacine Bellatar conteste. Une nouvelle étape dans la restructuration des hypermarchés Carrefour. Pour faire face aux offensives du e-commerce, le groupe veut laisser partir un peu plus de 1200 salariés, notamment via des ruptures conventionnelles collectives. Il faudra pour cela passer par un accord avec les syndicats qui ont l'impression de passer leur temps à entendre qu'il faut réduire les effectifs. Depuis l'arrivée d'Alexandre Bompard comme PDG de Carrefour, il n'y a même pas deux ans, 2000 postes ont été supprimés au siège du groupe et quelques 200 Carrefour City et Market fermés. Le temps de ce jeudi 28 mars, globalement ensoleillé, au meilleur de la journée, il fera entre 13 et 17 degrés sur la moitié nord de l'Hexagone, 16 à 20 au sud.